itchy. And it's getting well, well sticky.
Chase you out of earth.
Sur Radio G, tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Alors internationale surtout évidemment puisque c'est l'été et que voilà nos clubs locaux se reposent tranquillement. Voilà, il y a une semaine on célébrait les Générations d'or, justement voilà on parlait de ce fameux sport local et donc aujourd'hui on va plus être tranquillement sur l'international. À mes côtés, quelqu'un qui n'est pas en vacances en tout cas, puisqu'il est le seul avec moi dans le studio, c'est Cédric. Salut Cédric, comment ça va ?
Salut tout le monde, bah écoute, ça va. Hein. Long week-end chargé, mais pas sportif pour une fois.
Ah oui ?
Bien que
il y avait des actus.
On a parlé sport durant ce week-end, mais...
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce week-end ?
Non, mais du coup j'étais à Japan Tour. Où j'ai pu voir du coup.
C'est où ça? C'est
à Tours. Comme
ah, Japan Tour, ok, je pense que c'était le Tour.
Tour. Non, j'étais pas sur le Tour de France, okay. J'étais pas en Espagne. Non, mais du coup, il y avait nos invités qu'on a reçus il y a à peu près. fait 3 semaines, je crois, de mémoire.
Lesquelles?
L'Anjou Pop Corner.
Ouais, ça doit être ça, 3-4 semaines. Ouais.
3-4 semaines, ouais. Qui était là-bas, du coup, donc ça nous a permis d'aller les voir. Ça m'a permis aussi de voir Sturi, le youtubeur Catch.
Ok.
Donc on a pu parler de Catch. J'ai pu discuter e-sport avec des développeurs indés.
Ok.
Donc tu vois, bon petit samedi, puis bah, dimanche... Est-ce qu'il y a eu réellement un grand prix? Ça, j'ai pas eu l'impression.
Oui, c'est ça, c'était pas un grand grand prix, on va dire.
J'ai l'impression que tout s'est joué, mais plus dans la tête des commissaires, en fait. Ouais, que sur la piste.
Ça jouait là-dessus.
Ouais, ouais, non, mais c'était du grand festival, du n'importe quoi en termes de pénalité, franchissement de ligne à gogo, enfin pénalisé à
oui,
gogo.
Oui, je crois que j'ai vu ouais, qu'il y avait c'est... beaucoup de pénalités, ouais. Bah, on en reviendra hein, dessus, mais ouais, après le en plus après le circuit, enfin après le grand prix.
Pendant et après, ouais.
Pendant et après, donc voilà, ça a remis quelques places au niveau du classement.
Ouais, pas tant que alors... ça en fait, parce que déjà ils ont pas voulu toucher aux 3 premières places.
Ouais.
Un peu étonnant comme décision, mais
ouais.
Bon. Rien ne surprend.
Et effectivement, on parlera de tout ça, évidemment, en deuxième partie d'émission. On va commencer, donc, alors le programme, c'est qu'on va faire un gros gros point sur le SCO. Je vous ai préparé un petit peu toutes les nouvelles qui agitent un petit peu le club du SCO d'Angers. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, surtout la semaine dernière. Donc voilà, c'est l'occasion parfaite d'en parler. Et puis voilà, cette Ligue 2 qui va arriver dans à peu près un mois. Donc on a hâte de suivre ça. Petit point, léger point mercato au niveau du basket. Ce sera assez léger. Et puis au niveau de l'international, en ce moment, vous n'avez pas pu passer à côté évidemment du mercato, de la Formule 1, on en a parlé, surtout du Tour de France et de Wimbledon. Voilà, c'est toujours cette période qu'on aime bien, avec plusieurs trucs qui se chevauchent en même temps. Et on ne s'est pas fini, hein, puisque voilà, il y a certaines choses qui vont durer pendant tout l'été. Et puis il y a aussi la Coupe du Monde féminine de football qui va arriver très bientôt. Je crois que la liste définitive de Hervé Renard a été annoncée aujourd'hui même. Voilà, on va aussi suivre le mondial de basket qui arrivera à la fin août. Donc voilà, gros 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 programme qui nous attend. Et donc on est heureux de suivre ça avec vous cet été sur les ondes de Radio G. Écoutez, on va commencer sans plus tarder. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un point sur la situation du SCO depuis la fin de saison dernière. Du club angevin en Ligue 1. Premièrement, on savait que l'interdiction de transfert pour ce mercato avait été levée par la FIFA et que le SCO allait pouvoir reprendre ses affaires sur le marché. On sait désormais, après un passage devant la DNCG qui est jamais facile, que les économies du club sont dans le positif et qu'aucune sanction n'est à craindre de ce côté-là. Côté terrain, tous les joueurs encore sous contrat avec le SCO ont bien fait leur retour au centre d'entraînement de la Baumette mardi dernier, excepté les internationaux comme par exemple Imad Abdelli ou encore Nabil Bentaleb. Tout cela devront revenir des sélections donc dans les jours à venir. Paul Bernardoni et Baptista Mendy, qui sont annoncés sur le départ, sont eux aussi bien présents dans le groupe d'Alexandre Dujeu, groupe qui est parti hier du côté de Ploufragan en Bretagne pour un stage de préparation. Si la préparation du SCO débute aussitôt dans l'été, c'est parce que les Angevins ont du pain sur la planche pour construire leur équipe et parce que la première journée de Ligue 2 est attendue une semaine avant celle de la Ligue 1. Alors, ce premier match en deuxième division aura lieu le 5 août prochain du côté de Laval pour un premier derby haut en couleur. Et des derbies, il y en aura aussi durant les matchs amicaux d'intersaison. Au programme, il y aura Guingamp, puis trois voisins que sont Cholet, Le Mans et Nantes, avant de terminer par Bordeaux une semaine avant la reprise. Du côté du mercato, si plusieurs rumeurs annoncent des départs de Mendy, Bentaleb ou encore Taibi, celui d'Amin Salama au Stade de Reims a été officialisé la semaine passée. Arrivé l'été dernier en provenance de Dunkerque, l'attaquant, qui s'est révélé en Ligue 1 notamment lors de la première partie de saison, devrait rapporter entre 5 et 6 millions d'euros aux scoïstes. Un ancien angevin, Ludovic Butel, viendra également étoffer l'effectif rémois. Un seul départ a donc pour l'heure été officialisé. Alors il y a également celui de Taibi, qui ça a été officialisé dans la journée il y a quelques heures. Et il y a également eu une seule arrivée qui a été officialisée pour l'instant. Jordan Lefort, défenseur central de 29 ans, arrive en provenance du Paris FC après 32 matchs en Ligue 2 la saison dernière. Alors pour parler de ce qui reste, le SCO a annoncé les prolongations et les premiers contrats pro de certains joueurs depuis plusieurs semaines. Dans un premier temps, 3 prolongations ont été actées. Celle de Pierrick Capel jusqu'en 2024, celle de Farid Elmelali jusqu'en 2025 et enfin celle de Loïs Diony jusqu'en 2025 également. Messa a aussi beaucoup signé du côté des jeunes. Noah Nadje, attaquant de 19 ans, et Melvin Zinga, gardien de 21 ans, ont prolongé respectivement jusqu'en 2026 et 2025. Enfin, 4 jeunes pousses ont signé leur premier contrat pro, déjà aperçu en Ligue 1 l'année dernière. Justin Kalumba et Lilian Rao Lisoa sont désormais liés au SCO jusqu'en 2026. Pour Marius Kourkoul et Yacine Gaya, ce sera également 2026 avec une perspective d'intégrer progressivement le groupe lors de cette saison en Ligue 2. Enfin, on termine cette grosse page sur le SCO par un petit point mode avec le changement d'équipementier pour le club angevin. Exit Kappa, c'est Nike qui habille désormais nos SCOistes. La marque américaine a proposé de très beaux maillots d'entraînement et survêtements. Alors pour le maillot domicile dévoilé la semaine dernière, il peut être pour certains un peu décevant. Il n'y a pas vraiment de bande définie et surtout un blanc qui prédomine sur le noir, assez rare pour un maillot du SCO en domicile. Est-ce que toi t'as vu ce maillot, Cédric? Tu l'as sous les yeux?
Tu parles du très beau maillot que j'appelle tache d'huile.
Tache d'huile.
Ah ouais, non, c'est dégueu. Enfin, je sais pas comment dans les bureaux ils ont pu valider ça. Enfin, anciennement, on avait toujours ce côté ligne sur le maillot,
ouais,
qui alternait entre une ligne blanche, une ligne noire,
ben oui,
pour reprendre les couleurs du culon. Là, on a une espèce de dégradé noir, comme si, enfin, il manquait de langue. Enfin, c'est
voilà.
Pour moi, c'est pas les couleurs du SCO. Hein. C'est, enfin.
Oui, bah, c'est ça qui est un petit peu décevant, c'est qu'on ça manque d'identité. On retrouve
le SCO. Je me dis, là, en plus, les maillots qu'on voit actuellement, c'est juste des maillots non floqués avec les sponsors.
Sans les sponsors, tu veux dire?
Ouais. Du coup, quand tu vas avoir tous les sponsors,
oui, ça.
Limite, on va avoir plus les sponsors sur les maillots.
Alors, il y a d'ailleurs
sur l'identité propre du club.
Au niveau des sponsors, on ne sait pas encore, mais les deux principaux qui étaient là les années précédentes ne seront plus là. On n'aura plus le Gaulois et on n'aura plus également, je crois, qu'une agence d'intérim qui était sur le maillot du SCO. C'est vrai que c'est un maillot qui est quand même assez. Mais je trouve que, enfin, pour avoir jeté un œil aux photos des entraînements, tout ça, et les survêtements. Après c'est voilà, forcément c'est Nike. Personnellement j'aime beaucoup ce qui est fait.
Les maillots d'entraînement là, tout noir
ouais, moi,
avec
bien.
Juste le logo du SCO et de Nike. Oui, ouais. ils sont classiques, hein, c'est des trucs que tu peux acheter.
Mais
dans le commerce, donc en soi ils sont pas.
Mais le survêtement, il y a un survêtement.
Le survêtement, j'ai pas vu. Mais
un peu fluo, un peu jaune fluo, comme il y avait un maillot l'année dernière, donc que j'aime bien. Voilà. Ce n'est que mon avis encore une fois. On va retourner du côté des terrains. Toi, Cédric, qu'est-ce que tu penses un petit peu de toutes ces affaires autour du SCO? On sent, je ne sais pas si c'est ton sentiment aussi, que il y a une vocation de se tourner vers les jeunes et aussi vers ceux qui sont restés depuis plus longtemps au club, notamment.
Oh, je ne sais pas encore, mais oui, c'est ce qu'au vu du recrutement, puis des départs, choses comme ça, et de la malle d'argent qui rentre, ça a l'air de partir sur cette piste-là, en tout cas pour la Ligue 2.
Ouais.
Après, est-ce que c'est un choix volontaire ou pas? Il y a toujours quand même, on a passé la DNCG, ce qui est plutôt bien. Ce qui veut dire, du coup, laisse quand même des petits doutes, parce que bon, si on a passé aussi facile, enfin, on a passé, je dirais peut-être pas aussi facilement, mais en tout cas, sans faire appel ou autre, ça veut dire qu'il y a eu de l'argent qui est rentré en cours de saison.
Ouais.
Je pense pas que c'est la billetterie qui a comblé tout ça. Il y a eu tous les départs qui ont fait chuter le Cusco, donc faut pas oublier ça. On sait pas réellement s'il y a eu de l'argent entre-temps injecté dans le club. Donc genre, là-dessus, je mets toujours un petit bémol, parce que, ok, on a le budget pour une ligue 2, en tout cas pour la jouer, mais est-ce qu'on a le budget sur toute la saison? Ça reste à voir.
Bon, on verra ça. C'est vrai qu'il y a quand même eu des gros scénars qui sont partis récemment. Unai et Salama qui sont partis pour une petite somme. Oh, donc pour un club de Ligue 1, c'est quand même pas mal.
Les deux gros départs au mercato d'hiver, voilà.
Ils ont fait mal, forcément, sportivement.
Sportivement, mais bon, financièrement, voilà,
ça a apporté quand même. Faut aussi le,
ah,
le
c'est
dire.
Ça ce qu'il faudrait voir.
Et peut-être, en fait, justement, sur le sportif, c'est vrai qu'il y a eu une dégringolade après le départ des cadres. Thomas, Traoré, Mangani, Manso notamment. Mais est-ce que leur salaire, en moins sur une saison, a pas aussi profité au SCO sur la fin de la saison?
Si là,
t'enlèves, tu rajoutes, enfin, il y a des salaires plus petits. Voilà, ça fait potentiellement moins d'argent.
Il faudra en fait si la masse salariale a réellement diminué ou pas.
C'est ça, ça va être intéressant de suivre ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une volonté de miser sur les jeunes qui est assez intéressante. Comme je l'ai dit, on a déjà vu des Kalumba qui ont été très intéressants. Baoya également. Marius Kourkoul qui fait pas beaucoup parler de lui chez les pros, mais qui a été notamment très important chez les U19 et qui a été aussi dans l'équipe de France U17. Donc voilà, c'est aussi la jeunesse, la très jeune jeunesse, j'ai envie de dire, même si c'est un pléonasme. Bref, c'est vrai que ça reste intéressant. Est-ce que pour toi, Cédric, bon, on se fait pas quand même dépouiller pour l'instant. Est-ce que ça voudrait dire que potentiellement on peut jouer les premiers rôles l'année prochaine? Ça avance peut-être un peu.
Ça
mais...
me paraît compliqué.
Ouais. Au vu de la concurrence ou de la concurrence lui-même.
Ouais, je pense la concurrence. Déjà, on va avoir déjà un petit aperçu dans les matchs de préparation.
Ouais.
On joue Nantes en préparation aussi.
Ouais.
On va jouer Bordeaux.
Qui est un gros club.
Bordeaux
de Ligue 2,
qui veut en Ligue 2. Déjà, ça peut. Alors, c'est toujours des matchs de préparation, mais bon, on pourra voir en tout cas de l'efficacité, parce que je pense qu'ils vont en profiter pour tester les jeunes à ce moment-là. En tout cas, si j'étais entraîneur, j'en profiterais sur des matchs comme ça clés pour voir si mes jeunes sont prêts réellement à commencer la saison ou est-ce que je m'appuie sur plus
de l'expérience
et je mets quelques jeunes ou si je pars sur une full équipe jeune pour qu'il y ait de l'agnac, de l'envie. Je pense que ces deux matchs-là vont, voilà, pour un peu nous donner un peu la vision de l'équipe. Puis, bah, on sent quand même, enfin, même le stage d'habitude, généralement, c'est plus sur l'île de Ré qui partent en préparation. Ouais. Là, on a changé de coin, je crois. Même les équipes qu'on joue en préparation.
On sent qu'il y a un truc en moins.
C'est, ouais. C'est...
Parce que l'année dernière, je me souviens qu'on a joué Séville.
Ouais.
Et là,
ouais.
On va se retrouver à jouer, Le Mans, quoi.
Ouais.
En gros, c'est un club de
Cholet.
Un club de Ligue 1, deux clubs de National et deux clubs de Ligue 2.
Ouais.
Après, forcément, on s'adapte aussi au niveau.
Un club de Ligue 2.
Je n'ai dit deux, non?
Il y a Cholet. Il y a
Bordeaux et Laval.
Ah oui, c'est vrai que Laval, oui, on les joue.
Laval est en Ligue 2.
Et on les joue quand?
On les jouera la première journée. On jouera au stade Francis Lebasser.
Oui, mais là, on sera sur la première journée du championnat.
Oui, mais on les joue aussi dans la préparation.
Ah bah, moi, je ne l'ai pas sur le calendrier officiel.
Bah, je l'ai de mon côté. Non, t'as raison.
Ouais,
Cholet, Le Mans, pardon. Je mets le maintenant. Non,
ouais, c'est...
non mais oui, après, c'est vrai que c'est... Du coup, oui... bah, Guingamp, c'est ça. C'était pas Laval, c'était Guingamp que je voulais dire. Donc Guingamp et Bordeaux en Ligue 2, Cholet, Le Mans National et Nantes en Ligue 1, qui est une équipe qui va jouer le bas de tableau Nantes l'année prochaine, malgré le fait qu'il y a deux saisons, bah, voilà, ils jouaient le top 10.
T'as la date pour Guingamp?
Guingamp, ça va, c'est le premier match et je crois que ça arrive. Bah écoute, je crois que c'est fin. Si je dis pas bêtise, c'est fin de cette semaine. Donc, on verra ça. Mais
c'est ça, oui. C'est juste que ça se joue à Fougan. Hein.
C'est ça, c'est, Pagan, ça, hein. Bah, c'est samedi.
C'est samedi, ok.
Samedi, en fait, on enchaîne quasiment toutes les semaines. Samedi d'après, ce sera Cholet. 4 jours.
À Cholet, du coup.
4 jours plus tard, ce sera Le Mans.
Et à Saumur.
C'est ça. Et puis, enfin, 4 jours après, encore, ce sera. Nantes-Angers, donc un vrai derby, et on terminera une semaine avant la reprise par Bordeaux, qui est quand même une sacrée équipe, qui a bien failli aller en Ligue 1 l'année dernière.
Et puis qui fera office de premier match aussi à domicile.
Oui, voilà. Bon. D'ailleurs, le premier match à domicile en Ligue 2, ce sera
le deuxième. Ouais.
Sochaux.
Sochaux, pas sûr.
Ah oui, alors ce sera Sochaux ou Annecy.
Si Sochaux passe le cap de la DNCG, parce qu'il est mal engagé en tout cas pour l'instant, puisqu'ils sont relégués de mémoire en National 2, je crois.
Non, National, je crois.
National toujours, enfin en tout cas.
Mais en fait, effectivement, pour raconter un peu l'histoire, Annecy, qui se sentait déjà assez lésé par la décision vis-à-vis du match Rodez-Bordeaux, dont on a déjà parlé dans l'émission, Annecy a insisté, voyant cette info, alors qu'il devait être relégué en National, voyant cette info de relégation, eh bien ils ont directement, ils se sont proclamés tout seuls en Ligue 2. Et voilà, il y a un communiqué assez lunaire où ils se sont dit, ils sont contents d'être en Ligue 2, alors que personne du côté de la LFP ou de nulle part n'a décidé que ce sera Annecy en Ligue 2.
Oui, puis dans ce cas-là, pourquoi pas le troisième de National, enfin qu'il l'a mérité aussi peut-être.
Non mais oui,
il y a des barrages ou des choses comme ça. Enfin oui.
Bon voilà, il y a plusieurs choses.
Ah, ce club est un peu lunaire depuis la fin de la saison.
C'est vrai que
leur déclaration.
Ouais, bah disons qu'ils sont. Oui bon, je vais pas employer des termes bizarres, mais effectivement ils aiment beaucoup se plaindre.
Bah, ils perdent le match par leur faute, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça.
Parce que voilà, ils avaient le scénario, ils avaient tout.
Ouais,
ils savaient qu'il fallait qu'ils gagnent. Ils gagnent pas. Après, voilà, est-ce qu'ils.
Et Rodez, voilà.
Il y a toute l'histoire avec Rodez. Où ils disent, bah oui, mais on n'avait pas joué dans les mêmes conditions qu'eux.
Oui, bah, hein.
Et puis voilà, enfin maintenant, on s'auto-proclame. C'est bien. Bah écoute.
Va jouer tout seul.
On va proclamer le SCO.
En Ligue 1.
En Ligue 1.
En Ligue des Champions,
puis,
même.
Voilà.
Et pourquoi pas.
Et puis qu'il la gagne directement.
Bah oui, pourquoi pas. Bref, en tout cas, on suivra cette saison du SCO en Ligue 2. On a hâte de voir un peu ce que cette équipe va donner, parce que voilà, comme on l'a dit, il y a plusieurs pistes. Pour les hommes d'Alexandre Dujeu, on suivra ça de près. Au niveau du mercato, ça s'agit aussi du côté des clubs locaux en basket avec un départ qu'on n'avait pas anticipé, c'est celui de Akemji Williams. Cédric, le double nominé de la catégorie meilleur sportif masculin des générations d'or qui est donc parti de l'EAB, alors qu'on, et puis surtout on l'avait reçu. On l'avait reçu dans ce studio et donc voilà, après deux saisons, il s'en va du côté de Rouen, le tout fraîchement promu. Donc voilà, c'est vrai que c'était quand même un pilier un peu de cette équipe depuis deux saisons et c'est vraiment dommage pour le AB.
Bon, après,
qu'est-ce que t'en penses ?
C'est souvent dans le basket au bout de deux saisons, il y a du changement.
Ouais.
C'est toujours un peu étonnant le choix de rejoindre un club qui monte quand on a l'habitude de vouloir un peu plus, d'avoir un peu plus haut, surtout avec ce que le club a vécu.
Mm.
Après, pourquoi pas, hein, ça peut être juste parce que tout bonnement, il a peut-être envie de défi, de challenge.
Et, bah, bien sûr.
Et qu'une fois qu'il a peut-être tout fait, ce qu'il avait envie de faire ranger.
Exactement. Au niveau de. Des autres départs. Alors, on sait très bien que qu'on a également Yohan Choupa, Yuri Golitine qui est parti. Il y a pas mal de départs. Il y a une vraie reconstruction autour de l'Étoile Angers Basket. Il y a une arrivée qui a été officialisée donc aujourd'hui. C'est l'arrivée de, l'arrivée de Quentin Ruel qui joue au poste de 4-3, on va dire. Il c'est un habitué de la Pro B, hein, il jouait depuis trois saisons et il connaît un peu le coin puisqu'il était formé à Cholet Basket. Donc voilà, il a 24 ans, enfin bientôt 24 ans et donc ça va être très, très intéressant de le voir du côté des ordres d'Ali Bouziane. Et du côté de Cholet Basket, ils ont vendu, on va dire, il y a un nouveau joueur qui est parti dans un gros club après l'année dernière Macundo du côté de Monaco, c'est Dalo, Boris Dalo, qui va partir du côté de l'ASVEL. Voilà pour le petit point.
Ça va être intéressant de voir un peu leur recrutement de Cholet.
Ouais, pour voir un peu leurs ambitions.
C'est ça, parce que on a vu, bon, je pense que Monaco va sûrement stabiliser l'équipe qu'ils ont actuellement.
Ouais.
Mais bon, on a vu que c'était quand même solide sur toute la saison.
Mm-hmm.
On sait que les Mets, voilà, ils ont quand même une grosse perte.
Oui, c'est forcément, ça va toujours.
Voilà.
Ils ont même deux, je pense qu'il y en a un deuxième de son équipe qui a été drafté.
Ouais. Mais donc, on va dire que le,
oui, forcément.
Le point central, tu vois, enfin.
Du projet, oui.
Du projet, voilà. On sait que du côté de Lyon, il y a des ultimatums aussi.
Ouais.
Donc, je sais pas réellement ce qui va en être, s'ils vont conserver leur entraîneur. Donc, c'est pour ça que je pense que, ouais, le mercato, là, en basket, il va être intéressant pour voir un peu les, en tout cas, au premier jour, les Celtics sur le papier qui vont être les forces,
ouais,
à en devenir, quoi.
Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le sport local. On va revenir juste après la pause musicale pour parler football, cyclisme, Formule 1, tennis, même un peu de basket. On va tout de suite s'écouter Nino, qui est arrivé avec son tout dernier album ce jeudi.
Et puis, dans le studio, il vient d'arriver. Hein.
C'est ça. Non, alors, il n'est pas là. On aurait bien aimé, hein, mais il n'est pas là. Il est avec Central C sur son dernier album avec le titre Eurostar. Et on se retrouve juste après.
Ballon de 30, on fait manger la jungle. J'avais les Air Max, mais j'ai rangé. J'ai mis le Hermès avant le jingle. Desert Eagle. Sur la gâchette, j'ai mis le finger. Tête craquante, j'ai mis dans le grinder. Pour avoir le Ben, fallait la rigueur. Toujours Havana le cigare. Et la cahier fait mal à mon petit cœur. On passe du rouge au vert dans un grimace. Un sale glaçon dans ma liqueur. Et c'est pas tout le monde qui est dans ma ligue. C'est pas tout le monde qui est dans ma ligue. Placement sur nos logos. Au fiston, je vais tout léguer. Absent. Un peu trop pensif, je rallume un bambou. La chambre. Environ 4 points, je m'endors au Nobu. Je dois vendre. Je sais qu'ils sont morts, mais j'en veux beaucoup. Je dois vendre. Je sais qu'ils sont morts, mais j'en veux beaucoup. Rallons ma nègue. J'échange mon pilon contre la coca. Nous qu'à récupérer, sachez les mocas. Nous qu'à récupérer, sachez les mocas. J'arrive en Prada, camouche de président. Pressé, je peux pas rester. Un kilo de zaza, smoke avec mes 10 bancs. Ça rigole, je me sens léger. Toujours un belly, go to London. Toujours un belly, go to London. Scam, scam, scam. Pour presque 20 points, que Dieu nous pardonne.
Pull up on my ex in the newest car. She was like, boy, who do you think you are? I got a bitch and she living in Paris. She counted her ends on a Eurostar.
Toujours un belly, go to London. Toujours un belly, go to London. Scam, scam, scam. Pour presque 20 points, que Dieu nous pardonne.
Pull up on my ex in the newest car. She was like, boy, who do you think you are? I got a bitch and she living in Paris. She counted her ends on a Eurostar. Put my life on the line and get back from my bro like a rim from a Fina. Bro on the field and he's scoring points, but he stay on his dean like a rim Ben Zimmer. Right. I came up from instant noodles, nice no we eating shrimp tempura. My fans love me and I love them too. I'm not here for the fame, I'm here for the moolah. I was OT somewhere near the Oxford Uni, trapping, I weren't a scholar. Nah. I brushed my shoulder and popped my collar. Remember the loaf of bread went stale and the last bit of milk in the fridge had gone off. I was posted outside of McDonald's and now I'm in Lagos eating jollof. I'm there for my brother anytime that he needs, I'm there. I'm frail. I got so high, I just flew through the ozone layer. Bro stepped out of the crib with a zombie killer. My demon stepped with a vampire slayer. We don't sell drugs to under 18s, but the kids when I try, cause they watch it there.
Toujours un belly, go to London. Toujours un belly, go to London. Scam, scam, scam. Pour presque 20 points, que Dieu nous pardonne.
Pull up on my ex in the newest car. She was like, boy, who do you think you are? I got a bitch and she living in Paris. She come to the ends on a Eurostar.
Toujours un belly, go to London. Toujours un belly, go to London. Scam, scam, scam. Pour presque 20 points, que Dieu nous pardonne.
Pull up on my ex in the newest car. She was like, boy, who do you think you are? I got a bitch and she living in Paris. She come to the ends on a Eurostar.
Toujours un belly, go to London.
De retour sur le 101.5 FM de Radio G. Vous nous écoutez donc depuis le 101.5 FM ou bien sur www.radio-g.fr sur internet. On est toujours avec Cédric pour cette suite et fin de Génération Sport. Il nous reste quand même une bonne demi-heure avant de terminer cette émission. On va maintenant s'intéresser au football avec fameux marché des transferts qui revient cet été avec son lot de rumeurs, d'infos, d'intox. Pour le plus grand bonheur aussi des suiveurs du ballon rond. Alors côté Ligue 1, c'est assez maigre, hein, puisque même si Rennes se renforce conséquemment avec les arrivées de Blas et le fait pour un total de 40 millions, c'est assez, on va dire, comment dire, calme du côté des gros transferts au niveau des clubs français. À Marseille, on a quand même Geoffrey Kondogbia qui est aussi arrivé en provenance de l'Atlético de Madrid. Mais en réalité, c'est surtout du côté des entraîneurs que ça se bouscule beaucoup. Alors, au PSG, Luis Enrique va être bientôt officialisé comme successeur de Christophe Galtier. Marcelino va prendre la suite d'Igor Tudor à l'OM. Adolf Hütter, attention Hütter, va prendre place sur le banc de Monaco. Patrick Vieira débarque à Strasbourg. L'inconnu Francesco Farioli est arrivé du côté de Nice pour prendre le poste de Didier Dicard. Et enfin, Philippe Montagnier, remercié par Toulouse, a été remplacé par l'Espagnol Carles Martinez Novel. Voilà un petit peu, c'est vrai, qu'est-ce que ça inspire tout ça, tous ces changements d'entraîneur? Parce que là, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, déjà 6 parmi ceux qui ont été officialisés récemment. Qu'est-ce que tu en penses? Ça bouge beaucoup.
Ouais, le changement déjà le plus étonnant, parce que déjà, on n'avait pas vu ce qui s'était passé, je pense pas qu'on aurait dit un jour Chelsea va racheter.
Oui, c'est vrai.
Enfin, en tout cas, mettre de l'argent. Bon, c'est pas Chelsea en soi, mais c'est le même groupe d'investisseurs qui, du coup, a fait le grand. Alors, officiellement, c'est d'un accord en accord, mais qui a fait un grand nettoyage et du coup, qui sort.
Antonetti.
Antonetti, voilà. Qui sauve la saison de Strasbourg, qui fait un super taf, et qui est quelque part remercié. Voilà, ça, on l'avait pas vu venir, hein, clairement, de toute façon, ça allait se passer comme ça. Le choix de Vieira, ça me fait quand même peur.
Ouais.
Bah, son bilan, il est pas forcément super, super. Hein.
Moi, je suis un peu d'accord, c'est comme, à Nice, il a rien prouvé.
C'est ça, mais...
En Angleterre, il a duré, mais il a pas été transcendant. Il était dans le milieu de tableau, quoi. Donc c'est peut-être ce qu'il va viser aussi avec Strasbourg. Je pense que c'est un entraîneur quand même qui peut se maintenir. Après, voilà, est-ce que c'est vraiment un entraîneur qui va permettre à Strasbourg de passer un cap? Après, je pense que c'est pas le but, étant donné que Chelsea est propriétaire, ça va pas être possible pour Strasbourg de jouer les compétitions européennes, donc ça devrait donner un schéma un peu comme 3 avec City, donc ça va être intéressant, mais voilà, je pense que l'objectif ça va être surtout de maintenir le club en Ligue 1 et de former des petits joueurs. Voilà, on sait aussi qu'il va y avoir une passerelle plus facile entre les joueurs un peu mis de côté à Chelsea, prêts, ouais, ouais, voilà, pour les faire jouer un peu en Ligue 1 à Strasbourg.
À voir si ça devient une sorte de pépinière. Ça peut être intéressant aussi pour,
ouais,
pour les, bon, ne serait-ce que pour les finances de Strasbourg. Mais bon, un petit peu peur, va falloir voir la saison réellement.
Ouais.
Ça peut être le gros navire qui tombe d'un coup.
C'est ça.
Après, pour les autres entraîneurs, à Marseille, on va voir, hein, parce que bon.
Il a fait du bon boulot en Espagne.
Sur le papier, ça peut correspondre un peu au caractère de ce qu'il faut à Marseille. Mais bon, on sait que ça peut aller très vite.
Ouais, dans un sens comme dans l'autre.
Ouais, puis souvent c'est plus avec la direction que soit avec les joueurs ou les supporters. Donc à voir, Paris.
Je trouve que c'est un bon choix.
On va attendre réellement de voir, parce que s'il peut ramener ses assistants, tout ça, son équipe, pourquoi pas. Mais les dernières tendances, c'est tu viens tout seul, quoi.
Ouais.
Donc voir. Voir réellement, et après pour les autres, bah.
Ouais. Je connais pas, donc.
Ouais, on jugera, je pense, voilà, sur les.
Sur pièce,
ouais. Sur les 4-5 premiers matchs, on pense donner une idée, mais. Non, ouais, ça va être. Enfin, je pense, là, ça y est, on a fini en termes d'entraîneur, il n'y aura pas de.
Oui, c'est un peu
de
tard,
grosses
quoi.
Surprises. Il y a, je sais pas, Toulouse.
Oui, si, j'ai
Toulouse,
dit.
C'était qui déjà qui...
Alors, donc c'est Philippe Montagnier qui s'en va, et c'est un Espagnol, Carles Martinez Novel, qui était déjà arrivé pour coacher l'équipe réserve l'année dernière, et qui a connu notamment la fameuse Masia de Barcelone. Donc voilà.
C'est un club, ouais, enfin, du coup, il était déjà dans le club.
Voilà, ça faisait un an qu'il était déjà dans le club, il a été un peu promu.
Ça, voilà, ouais, du coup, quelque part, il connaît un peu déjà l'équipe type.
C'est ça.
L'équipe 1, donc... Je pense que voilà, pour eux, ça va être peut-être, on va dire, un léger changement, mais ouais. Bon, pareil, Toulouse, bon, ben on s'éloigne de plus en plus de l'Europe, apparemment. Ça va être très compliqué.
On verra ça. Ils sont en train de faire leur petite magouille, on va dire. Et puis, on verra si ça passe pour eux.
Mais après, voilà.
Sinon, ce sera Monaco qui ira en Conference League et Lille en Europa League.
Ouais, voilà. Ce serait le cinquième et le sixième.
C'est ça.
Ce serait requalifié, ouais.
Bref, en tout cas, on va rester sur le football avec les espoirs français qui représentaient de grandes chances de victoire finale lors de l'Euro Espoir avec une génération assez dorée quand même. Après une phase de poule passée sans encombre, avec 3 victoires en 3 matchs, les Bleuets ont chuté contre l'Ukraine 3-1. Après la belle ouverture du score de Cherki, les Ukrainiens, emmenés par la star de Chelsea, Mudryk, ont répondu collectivement et ont inscrit 2 buts avant la pause pour virer en tête à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la réponse française était trop timide et après un but de Wai refusé pour hors-jeu, l'Ukraine aggrave le score et enterre les espoirs français. Un échec de plus donc pour Sylvain Ripoll, en poste depuis plus de 6 ans à la tête des U21 de la FFF. Le bilan de l'ancien coach lorientais cumule 2 éliminations en quart de l'Euro Espoir, 1 en demi-finale de l'Euro Espoir et une élimination humiliante en poule aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alors effectivement, pour le défendre, il n'avait pas la meilleure équipe avec lui. Oui. Mais au niveau de l'Euro Espoir, il n'y a aucune finale. La seule fois où il a joué une demi-finale, il s'est fait battre 4-1 par l'Espagne. La question qui agite un petit peu les espoirs en ce moment, c'est est-ce que Sylvain Ripoll restera pas. Pour l'instant, la FFF reste sur un statu quo, mais peut encore prendre une décision. Ils prennent le temps de la réflexion pour savoir, parce qu'il y a évidemment un enjeu majeur, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec potentiellement des vraies stars à coacher et surtout des objectifs hyper importants, à la fois pour le pays, pour le rayonnement de la France et la France du football, et aussi des joueurs qui n'ont pas envie de cumuler 2 compétitions internationales pour au final sortir en poule, ce qui serait un petit peu dommage. Ils ont envie au moins de se ressortir avec la médaille d'or. Toi, Cédric, est-ce que tu penses qu'il faudrait un nouveau coach de cette équipe U21 avant les JO 2024?
Son bilan, il est pas non plus si mauvais. Ça, en fait, si on enlève les JO, où c'est vraiment le gros point noir, en soi, c'est des, faut pas oublier, c'est des jeunes. Et le fait que voilà, ils aillent en demi ou quart pour des générations comme ça, je pense que déjà c'est-à-dire qu'il y a un bon travail au sein des clubs et qu'il y a un vivier aussi en potentiel.
Oui. Et justement, est-ce que le vivier, il mériterait pas un peu plus? Moi, je pense qu'il mériterait un peu plus.
Ouais, mais
on a quand même des, par rapport à l'Ukraine, enfin, je veux dire, à un moment donné, on a des joueurs qui sont courtisés par les plus grands clubs.
Mais si tu prends toute la génération de Benzema, de Nasri, qui étaient ensemble, qui ont fait ça, qui ont eu des résultats dans ces catégories-là, ça n'a pas prouvé derrière.
Certains, si, quand même, ils ont quelques belles carrières, quand même.
Oui, mais en termes de bleu.
Ah, en termes de bleu. C'est différent, mais.
Voilà. Non, mais là, c'est. Enfin,
si on parle juste
de résultats purs pour les bleus, tu vois.
Mais c'est pour les bleuets aussi.
Pour les bleuets, tout ça.
Des bleuets.
C'est pas forcément parce que tu vas être champion d'Europe, c'est les jeunes, que ça va se répartir sur la suivante et jusqu'à l'équipe une, quoi.
Et pour toi, il peut aller chercher quelque chose à Paris.
Après, de toute façon, à Paris, déjà, on va avoir le même scénario que. Qu'à Tokyo, est-ce que les clubs vont vouloir libérer leurs joueurs?
Ah bah, ce qui va être différent, c'est à Paris.
Oui.
Mais... Et peut-être que ça va venir de plus haut, les ordres.
Oui, mais donc ça s'appellera de la magouille.
Bon, bah, on verra.
On sera pas à une magouille près, hein, de toute façon, au vu de ce qu'on a déjà pour ces JO-là. Mais en soi, faut voir réellement. Ouais. Après, de toute façon, j'ai envie de dire, si t'as un Mbappé ou t'as un Giroud ou un truc comme ça, le problème, c'est... Quel entraîneur tu mets? Bah, j'ai envie de dire, il n'y en a aucun.
Ouais.
Parce que je suis pas sûr que les mecs ils vont venir. Hein. Ils vont faire peut-être le taf. Mais déjà, je trouve pas que c'est la meilleure solution. Déjà, si justement, parce qu'on doit se servir aussi des JO, promouvoir les jeunes
ouais.
pour plus tard. Donc déjà, cette règle de quota, de mettre du hors quota, je trouve ça un peu ça débile.
Ouais, bah ça permet.
Surtout que voilà, c'est censé être l'esprit des JO, c'est des non-professionnels.
Ouais.
Et voilà, après, bah, ça veut dire que si tu sors l'entraîneur là maintenant, ça veut dire qu'il faut que tu gères avec tes potentiels joueurs supplémentaires, à voir réellement qui aura le cran, tu vois, de prendre cette ouais. équipe là. Enfin,
ça va être intéressant. Moi, c'est vrai que moi, c'est plus au niveau du jeu de l'équipe de France, des bleuets, un peu comme d'ailleurs chez les bleus. Ça me dérange. Il y a pas assez de. On sent que le collectif n'est pas imprégné par quelque chose, par un système de jeu intéressant. C'est un 4-2-3 assez basique, un 4-3-3 pardon assez basique. On sent pas de circuit de passe, on sent pas de jeu alléchant. Et dimanche soir, on s'est un peu ennuyé. On a surtout pas senti de révolte du côté des Français. Donc c'est vrai que moi j'aimerais bien un petit changement parce que aussi sur le long terme, parce qu'il y a pas que cette Euro, enfin c'est JO 2024. J'aimerais bien un peu de changement, voilà, pour l'Euro Espoir 2025, parce qu'on sait aussi qu'il y a des jeunes encore plus forts potentiellement qui arrivent. Des 2006, des 2005, qui sont déjà dans des gros clubs, qui peuvent arriver très fort, et on aura besoin d'un bon coach qui sait bien coacher, qui sait bien avoir un système intéressant, qui peut les faire briller pour les années prochaines. Bref.
Mais ce qui serait intéressant, c'est que ce soit vraiment un coach à part, tu vois, pour les JO, quoi.
Moi, je trouve ça pas bête d'avoir.
Parce que regarde, ça fait un peu
de,
comme
de faire un contrat d'un an à la personne qui prend la place de Ripoll.
C'est ça, enfin.
Hein, tu fais un contrat d'un an, tu vois s'il est bon ou il est pas bon. Moi, idéalement, alors c'est un rêve, mais par exemple un Zidane. Tu vois, tu fais venir un an, tu dis t'as juste une échéance, c'est les JO. Et après, bon, bah, advienne que pourra avec Deschamps. Ça se trouve, Deschamps, il va se planter à l'Euro 2024 et ils vont vouloir le virer pour promouvoir Zizou, tu vois, mais au moins, tu vois, Zizou, tu le places, il est un peu dans les coursifs de la FFF, il est présent, il a un projet quand même intéressant, il va coacher quelques grands joueurs, voilà. Après, évidemment, je pense que ça va pas se faire, mais je trouve l'idée pas déconnante sur un an de voilà pour lui travailler, il a du talent, il a de la matière et voilà, vient que pourra. Mais
ou parmi on va dire, il y a peut-être 3-4 coachs selon les catégories, tu vois, de l'équipe de France. Tu réunis les 4 et tu fais, une sorte de décision collective ou un truc comme ça pour que.
Les Avengers,
non, mais tu vois, dans l'idée, pourquoi, par exemple, ce serait suite des U19 qui seraient forcément au JO? Pourquoi pas suite des U20? Pourquoi pas, par exemple, un Deschamps, tu vois, aussi?
Ouais.
Comme on sait que c'est sur vraiment une période
courte,
tu vois, tu fais ça sur un an, tu décides, voilà, comme ça, ok, ça fait une petite charge en plus, mais tu vois, enfin, ce serait pas surprenant. Limite, tu prends celui qui te semble le plus adapté.
Ouais. Bon, on suivra ça évidemment pour les prochaines séances des espoirs. Deux infos basket qui concernent l'équipe de France masculine avec le mondial qui approche fin août. Vincent Collet a annoncé la liste pour le mondial et la plus grosse surprise, c'est l'absence de Victor Wembanyama qui a préféré faire l'impasse sur ce mondial, se concentrer sur sa première saison NBA et revenir notamment pour les JO Paris 2024. Pour les présents, on retrouve les cadres, Rudy Gobert, Nicolas Batum, Nando Docolo ou encore Evan Fournier. Sinon, ce week-end avait lieu la finale de la Coupe du Monde des moins de 19 ans avec la France qui défiait l'Espagne. Les Bleuets avaient éliminé au tour précédent les jeunes Américains, un vrai exploit, et ils ont malheureusement chuté en finale contre les Espagnols après prolongation 73-69. En Formule 1... Oui, dis-moi.
C'était une non-annonce, en fait, le fait que Wanda Lama ne soit pas là, puisque... lui-même l'avait annoncé largement avant la...
Bah en fait, il a annoncé le jour même de la liste.
À partir du moment où il avait dit qu'il jouait la Summer Cup avec les Spurs, on savait très bien que
ça allait être compliqué.
Ça allait être compliqué. Ce qui est dommage, c'est que quand il s'est blessé et qu'il devait jouer, c'était l'Euro, je crois, dernière compétition.
Peut-être, ouais.
Il avait dit je ferais tout pour revenir
pour le mondial.
Pour le mondial, surtout, et après voilà, on voit que dès que t'arrives dans un club américain, t'as tellement une grosse pression que
après bon c'est à sa décharge c'est sa première saison quoi.
Ouais mais bon tu vois, on voit que déjà ça
il a aussi participé au match éliminatoire à la Coupe du Monde que certains n'ont pas fait qui vont aller à la Coupe du Monde. Bref, on va enchaîner tout de suite avec la Formule 1 au niveau de l'identité du pilote vainqueur. Les Grands Prix se suivent et se ressemblent depuis plusieurs mois maintenant. Comme en 2022, Max Verstappen est intouchable avec sa Red Bull. Et il a encore démontré ce dimanche du côté de Spielberg en Autriche. Le néerlandais termine devant le monégasque Charles Leclerc et le mexicain Sergio Pérez. Et il demeure le leader du classement général des pilotes. On a un peu parlé de ce Grand Prix, Cédric. On ronflait ce dimanche?
Ouais. Il y a eu des beaux dépassements, mais plus, on va dire, dans la partie basse du...
Ouais.
Du classement, mais déjà c'était un week-end test parce que c'était la mise en place du nouveau format.
Ouais.
Donc une course d'essai suivie d'une qualification. Le samedi, on avait une qualification pour le sprint. Mmh. Le samedi, on avait le sprint et le dimanche la course. Ouais. Donc, voilà. Et puis oui, enfin, ce qu'on retient surtout de cette course-là, c'est que Ferrari déconne encore avec la stratégie. Ils font rentrer leurs deux pilotes alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Enfin, il y a un safety car, ok, on peut gagner du temps sur le changement de pneus, mais quand t'as tes deux pilotes qui sont en 2 et 3 à ce moment-là, tu t'agis différemment. Donc voilà, il se tire un peu une balle dans le pied. Puis bah oui, il y a eu tous ces dépassements de piste. Donc au bout de 3 fois, vous avez un drapeau noir et blanc. Et si vous le faites une 4e fois, bah c'est 5 secondes de pénalité. Et si vous continuez, bah c'est +5, +5. Et on se retrouve avec un Ocon qui se retrouve avec plus 30 secondes à l'arrivée. Quoi.
Ah oui, donc c'est énorme. Quoi.
Mais 30 secondes qui ont été... Le total a été fait... Après la course, parce que après la course, ils ont réanalysé toutes les sorties. Ouais. Enfin, il y a un moment, voilà, je pense que cette règle-là va falloir aussi un peu la modifier ou l'abolir, parce que ce qui s'est passé sur le circuit, c'est que c'est un circuit aussi bien pour les motos. Ouais. Et dans la réglementation des motos, par rapport à la piste, il doit avoir plus d'asphalte sur le côté pour éviter, voilà, sur les chutes, tout ça, que ce soit directement en contact avec les graviers ou pelouses. Mm-hmm. Et c'est ça, entre autres, qui fait qu'il y a eu plus de déplacements. Donc, soit réétudier réellement les zones de sortie, ou soit abolir un peu cette règle-là. Enfin, c'est un peu débile, surtout quand les voitures, des fois, sont pas conduisibles comme on veut. Bah oui. Ça tue un peu la course. Et je pense que les pilotes, ils ont déjà beaucoup de choses à surveiller dans leur voiture. Hein. Donc, ouais, encore les FIA qui... Enfin, j'ai l'impression que maintenant, de toute façon, la FIA, c'est plus la course pour la course et la course pour Netflix.
Ouais.
Parce que par contre, là, t'as un magnifique scénario pour les réclamations et tout. Ça fait des images pour Netflix. Oui. Hein.
Forcément. Voilà pour ce petit point F1. On va maintenant parler de cyclisme. Eh oui, c'est Tour de France. Il a débuté samedi dernier du côté du Pays Basque espagnol à Bilbao. La première journée fut quand même assez mouvementée avec des attaques des favoris, Pogacar et Vingegaard. Et il y a eu aussi un final animé par les frères jumeaux britanniques Adam et Simon Yates. Finalement, c'est Adam qui l'emporta et qui s'empara du maillot jaune, maillot qu'il porte toujours aujourd'hui. Le lendemain, c'est un Français qui a fait parler de lui avec la victoire du coureur de Cofidis, Victor Laffey, qui s'est échappé dans le dernier kilomètre et a coiffé tout le peloton au poteau. C'est la première victoire sur le Tour de France pour l'équipe dirigée par Cédric Vasseur depuis 2008. Cofidis qui revient un peu sur le devant de la scène. Le lendemain, l'étape qui se terminait à Biarritz était visée par les sprinteurs et c'est le Belge Jasper Philipsen qui s'est imposé devant Wout van Aert. Et aujourd'hui, rebelote encore une fois pour les sprinteurs. Doublé d'ailleurs pour Philipsen qui l'a emporté au sprint sur le circuit de Nogaro après 3 chutes dans le final. C'est vrai que l'étape du jour a été... un peu ennuyante, c'est comme les étapes où c'est du sprint. Ah, en fait.
Ça, j'ai envie de dire, ça fait 2 étapes où
y a,
c'est pas forcément fait chaud.
Il y a de l'attaque, il y a d'une échappée, elle prend un peu l'avance, elle se fait rattraper, et puis sprint de finale. À noter que cette étape n'était pas n'importe laquelle puisque il y avait Max Martin, notre ancien ami et chroniqueur qui était pendant la course. Voilà, il suivait les coureurs dans sa voiture pour suivre un petit peu le Tour de France.
Oh, il a fait Radio Tour de France.
C'est ça, ouais, ça avec France Bleu Gascogne. Donc voilà, félicitations déjà à lui parce que c'est quand même un bel accomplissement. Et puis je pense qu'il a bien dû kiffer cette journée. Voilà, il était juste derrière la caravane du Tour, donc forcément c'est toujours assez sympa.
Si t'as des saucissons ou des casquettes, hein, on est preneur. Hein.
Un Bob Cochenou, Max, s'il te plaît, un Bob Cochenou. Donc bref, voilà. En tout cas, pour l'instant, pas forcément d'explication entre les favoris, mais une victoire française, ça fait toujours plaisir.
Ouais. Puis bon, un Tour de France qui a enfin commencé, j'ai envie de dire, parce que bon, je comprendrai jamais qu'on fasse un départ à l'étranger. Enfin, c'est le Tour de France, quoi. On n'a pas vu encore le Tour d'Italie partir de.
C'est comme de Paris Dakar, ça se passe pas ni à Paris ni à Dakar, quoi.
Oui. Il y avait, enfin, dans le temps, il y avait quand même.
Oui, mais c'est
pour ça. C'est gardé la marque. Mais là, je trouve que quand tu regardes tous les autres grands tours, ils partent toujours quand même du pays. Ça me dérange pas qu'on fasse une étape à la rigueur qui arrive dans un pays limitrophe, tu vois. Mais le départ, je trouve ça quand même aberrant de.
Bah. On va encore parler de ça, mais dis-toi qu'il y a beaucoup d'argent qui est.
Ah oui, non, mais c'est juste de l'argent, ça,
voilà,
c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est. Fin...
Parce que.
Déjà l'année prochaine.
Accueillir le départ, ça coûte de l'argent et forcément, ça tire les grandes villes autour.
Déjà, quand on sait que l'année prochaine, l'arrivée ne sera pas à Paris, mais à Nice.
Ah oui. Ah bah oui, pour les.
Parce que. Il y a les JO.
D'ailleurs, les JO, est-ce que tu as vu le parcours? Je l'ai vu aujourd'hui, il est tombé.
J'ai pas vu encore.
Dis-toi qu'on n'arrivera pas sur les Champs-Élysées. On arrivera au Trocadéro. On part du Trocadéro, on passe par Versailles, on fait un petit tour par tu sais, le fameux vélodrome de 50 ans
de Yvelines. Ouais, ça encore, c'est historique pourquoi, en termes de vélo, pourquoi pas. Ouais.
Et après, on repasse par Paris, on va jusqu'à la butte Montmartre, on fait trois tours de Montmartre. Et on arrive au Trocadéro. Je trouve ça pas ouf comme.
Personnellement, c'est surtout d'introduire une boucle en fait. Soit on fait un parcours en boucle directement,
ouais.
Soit on fait une boucle. On fait une fois un parcours dédié et après on fait une boucle et voilà. Mais cette idée-là de bon bah on va faire. Un petit kilomètre, hop, ou deux, hop, on va se promener. Et puis après, bah, vous allez tourner sur un vélodrome, quoi. Pourquoi pas faire ça directement sur un vélodrome?
Oui, bah, c'est ça. Après, c'est, bah, forcément, la butte Montmartre, il y a plus de hauteur, on va dire.
Après,
c'est vrai que si tu montes, tu descends forcément.
C'est donc, ça.
En même temps, il n'y a pas forcément d'enjeu.
Il faudrait voir en termes de dénivelé, tout ça, réellement, ouais. Si...
Paris-Roubaix, ça aurait pu être faisable, peut-être. Hein. Roubaix-Paris, plutôt, du coup, ouais. Tu commences sur les pavés, quelque chose d'iconique.
Oui, ça pouvait. Enfin, on aurait pu faire une étape, oui.
T'arrives en. Après sur les champs. Souvent, je trouve ça bizarre quand même de pas arriver sur les champs alors que c'est vraiment le truc iconique du cyclisme à Paris.
Ouais, mais le problème, c'est que je pense qu'il va y avoir pas mal de choses liées, on va dire, au partenariat, peut-être sur les Champs-Élysées, tout ça. Et aux alentours, avec les villages olympiques, des choses comme ça, des fan zones.
C'est sûr, forcément.
Donc c'est peut-être pour ça aussi.
Ah bien sûr. Mais et puis après Trocadéro, ça reste quand même une arrivée dans la Tour Eiffel.
Donc, ouais, l'idée de faire un parcours, mais sans que ce soit un réel parcours au final, oui, c'est un peu étonnant quoi.
Bon, voilà, on suivra ça pour les JO. On fera évidemment, je pense cet été, un petit point justement sur ces fameux JO. Voilà, sur l'avancée des différents athlètes, etc., des équipes. On suivra ça évidemment de près, et puis surtout le Tour de France, il va continuer évidemment, et il va faire son petit tour évidemment dans notamment les Alpes et je crois un petit peu les Pyrénées, si je dis pas bêtise.
Ouais, je crois que cette année, oui, il y a moins de montagnes encore que il y a 2-3 ans. Je crois que c'est quand même un peu plus plat.
Ouais.
Et bon, il y a toute une partie de la France qui est un peu ignorée. Donc...
Oui, je trouve aussi qu'elle est vraiment un peu coupée en deux, cette France. Donc, bref. Toujours un peu regrettable, on fait le Tour de France, mais on passe par l'Ouest, notamment. Bref. On va passer maintenant au tennis. Ça fait maintenant 3 semaines que Novak Djokovic et Iga Swiatek ont été sacrés à Roland-Garros et la saison sur herbe a donc débuté juste après. Hier se lançait le grand chelem de Wimbledon et qui dit Angleterre dit pluie évidemment. En effet, les intempéries perturbent en ce moment même le premier tour du tournoi londonien. Pour les matchs qui ont pu aller à leur terme, les résultats des Français sont plus que mitigés. Hier, 5 tennismen tricolores sont sortis dès le premier tour et seul Corentin Moutet s'est qualifié en battant Richard Gasquet. Aujourd'hui, Jérémy Chardy a dit adieu au circuit en prenant sa retraite après une défaite au premier tour contre le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Et du côté des femmes, la numéro 1 française Caroline Garcia est passée sous encombre contre l'américaine Volinette, pardon, et elle affrontera la canadienne Leila Fernandez au second tour. Diane Paris de son côté a également rallié le prochain tour en s'imposant contre la locale Dart. Parmi les favoris, pas de grands éliminés excepté Coco Gauff sur le tournoi des dames. Et puis dernières infos au niveau des Jeux Européens, je ne sais pas si tu as un peu suivi ça, Cédric, les Jeux Européens. On savait que notamment notre Angevine, Amandine Brossier, était engagée dans ces Jeux Européens sur l'athlétisme. On a eu des très bons résultats, puisqu'on se classe cinquième de ces Jeux Européens, derrière l'Italie, l'Espagne, l'Ukraine et l'Allemagne. La France, donc, termine avec 17 médailles d'or, 19 médailles d'argent, et 26 médailles de bronze. Voilà, les Jeux Européens, donc c'est comme les Jeux Olympiques, mais au niveau européen. C'est seulement la troisième édition, hein. il faut le dire. On sait que, notamment dans d'autres régions du monde, on a plusieurs... on a des Jeux Asiatiques, on a des Jeux Sud-Américains, etc. Et là, effectivement, voilà, c'est quand même assez récent. La première édition date de 2015, c'était à Bakou, ensuite en 2019 à Minsk, et cette année, c'était en Pologne, du côté de Cracovie. Voilà pour cette info. Donc voilà, certains sports olympiques qui ont quand même pu faire leur gamme, donc dans
ouais, ces, et puis il y a eu une petite couverture quand même médiatique.
Ouais, je trouve ça a été intéressant.
J'ai vu entre autres sur l'équipe.
Ouais, quelqu'un a mis ça en valeur.
Ouais, ouais,
et aussi les bons résultats. Je tiens à le placer des deux gros espoirs du tennis de table français et même mondial, les frères Lebrun, qui ont fait un doublé sur le podium avec donc Alexis et je crois et Félix Lebrun, je veux pas dire de bêtises non plus, mais voilà, les frères, et c'est le plus jeune qui a seulement 16 ans a remporté la médaille d'or, donc lui c'est vraiment un gros cador, et pour Paris 2024 ça va être très intéressant de le voir face aux meilleurs mondiaux.
Est-ce que tu veux une petite breaking
c'est parti,
on a déjà plus ou moins évoqué tout à l'heure, mais ça y est, c'est enfin officialisé, hein, l'accord de principe pour la séparation de Galtier avec le PSG. C'est officiel, voilà, maintenant.
C'est officiel pour le départ de Galtier du PSG. Il va nous rester quelques... Voilà, il nous reste à peu près une grosse minute dans cette émission. Évidemment, on vous remercie d'être toujours fidèles sur Génération Sport. On a fait quand même une très belle émission la semaine dernière sur les générations d'or. Cette année, voilà, enfin cet été, on vous prépare évidemment de belles choses. On va suivre tranquillement tout ce qui se passe cette saison. On reviendra à la rentrée évidemment avec du lourd, j'ai envie de vous dire, avec des interviews toujours. Voilà, toujours des infos également, donc ça va être toujours intéressant de suivre ça, peut-être des nouveaux chroniqueurs, on essaie d'en recruter, c'est pas facile, donc encore une fois, on passe le message, si jamais vous voulez rejoindre Génération Sport en tant que bénévole, vous êtes les bienvenus. Alors vous nous envoyez un mail à Génération Sport sport avec un s @gmail.com pour essayer donc de nous rejoindre dans les studios de Radio G et de voir voilà si vous pouvez rejoindre l'équipe ou pas. Le but, c'est simplement d'être passionné de sport angevin et de sport international. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour vous parler de vous. Voilà, c'est vrai que je sais pas si t'as quelque chose à rajouter avant qu'on rende l'antenne au plan de vagabonde.
Non, bah, on va essayer sur un petit peu le Tour de France cette semaine, quoi.
Bien sûr, évidemment.
On va être plus au point mardi encore, mais voilà.
Évidemment. Quoi. On fera la petite sieste devant le Tour de France.
C'est ça, la petite fameuse sieste digestif.
La fameuse. On vous laisse donc avec les Blanches Vagabondes et nous, on se retrouve la semaine prochaine de 20h à 21h sur Radio G.